Bienvenue à tous et bienvenue à toutes surtout, puisque je ne vois que des femmes. Bonsoir Agnès Martin-Lugan.
Bonsoir.
Merci d'être parmi nous aujourd'hui.
Ben c'est moi qui vous remercie de m'accueillir.
Alors il faut dire que chacun de vos romans est un événement. Des milliers, voire des millions d'exemplaires vendus. D'ailleurs aujourd'hui est sorti La vie est facile, ne t'inquiète pas chez Pocket. Mais ce soir, si on a le plaisir de vous accueillir, c'est avant tout pour la sortie de votre quatrième roman, qui s'intitule Désolée, je suis attendue, paru aux éditions Michel Lafon en avril dernier. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, ce dernier livre s'ouvre sur Yaël, donc qui a 25 ans, qui est une jeune femme plutôt joyeuse, plutôt insouciante. Qui réalise son stage de fin d'études dans une agence d'interprètes à Paris. Et alors, en toute honnêteté, elle a plutôt hâte que ça se termine, hein.
Oui, totalement. Oui, non, non. Yaël est vraiment, à 25 ans en tout cas, une jeune femme qui pense surtout à la fête et à ses amis plutôt qu'au travail. Et sa carrière est le cadet de ses soucis.
Et d'ailleurs, elle n'en revient pas quand son patron lui propose un travail.
Pour elle, c'est un gag. Sa première réaction, c'est il se moque de moi. Et qu'est-ce que. Enfin, et finalement, elle se dit plutôt je n'ai rien fait pour qu'on m'embauche.
Et d'ailleurs, très vite, on va la retrouver 10 ans plus tard. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur la jeune femme qu'elle est devenue?
10 ans plus tard, je pense qu'on ne la reconnaît plus. C'est absolument plus la même. On est face à une femme de 35 ans, seule, obsédée par son travail, surtout, qui a un planning millimétré, qui vit dans un univers totalement aseptisé et qui est uniquement tournée vers ses missions, vers l'agence où elle travaille, qui est la même que celle où elle a fait son stage de fin d'études. Et finalement, plus rien ne compte à part ça.
Et d'ailleurs, c'est vrai que ce qu'on peut dire au départ, quand on découvre cette héroïne, c'est qu'elle ne nous est pas, à nous, lecteurs, franchement sympathique.
Non.
D'ailleurs, elle s'en cache pas, elle le dit souvent, elle n'est pas là pour se faire des amis.
Non.
Et finalement, les seuls amis qu'elle ait sont ceux d'avant. Et bien qu'ils ne la comprennent plus, ils continuent à l'inviter. Alors, entre eux, un fossé s'est créé quand même. Elle ne voit plus ses nièces et neveux grandir. Et j'ai sélectionné en fait un passage qui résume assez bien l'état d'esprit d'Yaël. Et j'aimerais bien que vous nous le lisiez.
De mon côté, c'était différent. Avec l'agence, j'avais découvert que je pouvais aller loin, très loin, et hop, pardon, et rien ne me ferait dévier de ma trajectoire. J'avais envie d'être la meilleure, de prouver que je pouvais exister par mon travail, le tout pimenté d'un besoin vital de me dépasser. Je misais tout là-dessus. Pour moi, rien n'était impossible, rien n'était trop dur. Je gérais tout, la fatigue, le stress, les différents dossiers, toutes mes missions, et tout ça sans l'aide de personne. J'étais maîtresse et actrice de ma propre vie. Cependant, je m'en voulais d'avoir raté l'anniversaire de Marius. Comment avais-je pu oublier? J'aurais dû mettre une alerte sur mon téléphone.
Oui, donc voilà, ça montre bien son état d'esprit puisque tout passe par le téléphone. C'est une jeune femme qui est très ambitieuse, qui est sophistiquée et qui et donc dont le téléphone portable est devenu une sorte de prolongement d'elle-même. Chaque chose est à sa place. Même manger n'est plus un plaisir en
C'est une
fait.
perte de temps.
Voilà, c'est une perte de temps.
Elle rêverait qu'il y ait une pilule qui lui permette de sauter les repas. Enfin, et à la rigueur, le sommeil, c'est pareil. Même son sommeil est réglé en fonction d'un somnifère. Elle a appris à gérer son corps en fonction de ça. Y a plus, en fait, elle n'a plus aucun plaisir d'essence. Le plaisir de boire l'apéritif avec ses amis, le plaisir de se mettre à table, le plaisir d'un toucher, tout ça n'existe plus pour elle.
Donc on peut dire aussi que c'est à ce moment-là que qu'une passion devient une réelle pathologie en fait.
Oui, chez elle, le travail est devenu pathologique. C'est une façon de combler le vide, de ça. Le travail l'a vampirisée et en même temps, elle n'a jamais lutté contre cette vampirisation.
Et pourquoi avoir choisi d'écrire sur ce sujet-là, sur le travail, sur la place que peut occuper le travail dans une vie et, comme vous dites, vampiriser tout le reste?
La thématique en général m'intéressait, enfin, je regardais un petit peu autour de moi et je réalisais que voilà, enfin, tout le monde à un moment ou à un autre peut se faire happer et avoir par son travail, sans forcément que ça devienne pathologique à long terme comme Yaël, mais je me suis interrogée sur le pourquoi du comment et la question de l'équilibre. C'était ça, j'avais envie du coup de partir d'un personnage qui n'a rien de carriériste, la retrouver avec cette addiction au travail, d'essayer de comprendre dans son cas pourquoi c'est devenu, ça a pris cette importance-là, et derrière de la faire quitter cette position de robot, parce que j'estime que c'est devenu un robot, pour la ramener à la vie et la ramener au plaisir des sens.
Oui, d'ailleurs, est-ce que vous pourriez nous dire comme ça rapidement la journée type de Yaël, en fait?
C'est pas compliqué. Yaël ouvre les yeux à 6h28. Son réveil sonne à 6h30. C'est le déclencheur pour qu'elle mette le pied par terre. Elle enfile une tenue de sport. Elle attrape son sac de piscine. Elle arrive à 7h devant la piscine. Elle est la première à y rentrer. Elle enfile son maillot de bain, son bonnet, ses lunettes de bain. Elle accroche dans une pochette waterproof, son téléphone à son bras et elle plonge pour faire des longueurs pendant 50 minutes. Tout est millimétré. Elle sort de la piscine, elle fonce très rapidement renfiler une tenue sèche. Elle rentre au pas de course chez elle. Elle se douche, elle se sèche les cheveux, elle les attache d'une façon très très stricte. Elle se maquille de la même façon depuis 10 ans. Elle enfile son tailleur, ses stilettos. Elle reste debout dans sa cuisine pour avaler un expresso et une barre protéinée et elle monte dans un taxi pour aller travailler. Et donc, elle s'est levée à 6h30 et il est à peine 9h.
Quelle vie.
Voilà. Et ça va continuer, son travail va l'amener jusque parfois 22h, 23h30. Elle rentre chez elle. Elle se douche parce que voilà, y a un rapport à l'hygiène qui est extrême. Elle avale un somnifère. Pendant une demi-heure, elle revoit son planning du lendemain, le temps d'effet du somnifère, et elle s'endort.
Et elle prépare ses affaires pour le
Voilà,
lendemain, bien sûr,
évidemment, évidemment.
puisque...
Et elle vérifie que la femme de ménage a changé ses draps et ses serviettes comme elle doit le faire avec obligation 2 fois par semaine, sinon elle va taper du poing sur la table.
Alors, sans trop en dévoiler, en fait, on devine que si Yaël court comme ça après le temps, juché sur ses stilettos, et se jette à corps perdu dans le travail, c'est peut-être parce qu'il y a un vide à combler. En tout cas, il y a forcément un élément déclencheur à cette boulimie professionnelle.
Oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où Yaël a été embauchée donc par Bertrand, son patron, à l'agence, à la base, ils étaient 6 amis et un a disparu du jour au lendemain, sans donner de nouvelles. Et donc, celui qui a disparu, c'est Marc. Et Marc était son acolyte. Et il n'y a plus eu de Marc. Et finalement, ben voilà, elle a compensé avec le travail. C'était une façon aussi d'oublier.
Et moi, je trouve que souvent, c'est vrai que les romans enfin, peuvent être un moyen assez subtil, autre qu'un essai, qu'un documentaire, pour faire passer un message. Et c'est vrai que ce qu'on se dit en refermant le vôtre, c'est qu'en aucun cas une passion ne doit engloutir tout le reste. C'est-à-dire qu'on doit être capable de renouer avec l'essentiel, à savoir la famille, les amis, un bon repas, du bon vin, les plaisirs simples. Donc finalement, la clé du bonheur, Agnès Martin-Lugan, est-ce que c'est l'équilibre, tout simplement?
Oui, je pense. Enfin, c'est mon point de vue, mais après, j'avais aussi envie de prouver à Yaël que finalement, si elle arrivait à laisser une part à une vie personnelle et donc à sa famille, à ses amis, une part d'existence dans sa vie. Finalement, elle n'en serait que meilleure dans son travail. Elle renouerait avec une part d'humanité et finalement, elle ne serait plus dans un rapport pathologique au travail et du coup, ses rapports aux autres, parce qu'elle a beaucoup de mal aussi à imaginer que ses collègues soient des êtres humains. C'est-à-dire que ça va lui servir pour travailler. Et encore, si, Encore faut-il qu'elle considère qu'il soit capable de travailler correctement. Mais c'était, oui, de lui montrer que, voilà, une vie hors travail va peut-être nourrir une jolie vie professionnelle derrière. C'était aussi ça que j'avais envie de lui prouver.
Oui, c'est ça. Enfin, y a pas de... Enfin, c'est pas manichéen. Je veux dire, c'est pas tu ne dois pas trop travailler ou tu ne dois pas trop peu travailler.
Mon idée avec ce livre, c'était ni de taper sur les working girls ou les hommes accros au travail aussi. C'était absolument pas ça l'idée. On peut beaucoup travailler et être très heureux et avoir une vie privée et personnelle hyper épanouie avec une considération de l'autre. Je suis pas dans une défense du travail à tout prix ou de pas de travail du tout. Le principal, c'est de trouver son équilibre entre les deux et de pas, voilà, de pas séparer, de pas se dire bah, si je veux avoir une brillante carrière, il faut rien à côté et en même temps, si je veux avoir une vie perso épanouie, bah, pas de travail à côté. Enfin, je mais après, c'est mon point de vue. Je me dis voilà, on peut avoir les deux.
Oui, et puis finalement, heureusement que son patron arrive à un moment donné à lui dire stop.
Oui.
Arrête.
Mais son patron la voit au bord, au bord de la rupture. Le fil est vraiment pas loin de claquer. Et voilà, il y a que lui qui peut la force. Il la force à partir en vacances. Mais pour Yael, vacances, c'est je suis en train de me faire virer. Mm-hmm. Elle ne sait plus ce que c'est que le mot vacances. Ça n'existe pas.
Alors que physiquement, elle dépérit. Enfin, je veux
dire. Oh, il y a plus rien. Il y a plus de jus. Il y a plus d'énergie. Enfin, c'est le robot dont les piles sont en train de s'éteindre.
Et autre question concernant les personnages. Donc ici, les questions d'Yael. Dans les gens heureux, lisent et boivent du café et la vie est facile. Ne t'inquiète pas. On suit Diane. Et dans votre livre précédent, on fait la connaissance d'Iris. Toutes des femmes,
oui.
Qui se retrouvent à un carrefour de leur vie et à chaque fois malgré elles. Alors, qu'est-ce qui vous motive à écrire des portraits de femmes ?
Parce que j'en suis une. c'est la première raison que je n'ai pas encore le souhait de me projeter pour écrire avec le regard et la bouche d'un homme. Ça, c'est une autre raison. Et parce que fondamentalement, ça m'intéresse les ruptures, les carrefours qu'on peut vivre en tant que femme à certains moments dans notre vie. Enfin, je pense même toute notre vie. C'est un mélange de toutes ces petites choses-là et ça me vient d'une façon totalement naturelle et instinctive.
D'accord.
Et après, j'aime beaucoup aussi, du coup, avec le regard d'une femme, observer justement les hommes et avec quels hommes quels sont les hommes qu'elles vont rencontrer pour X ou Y raison et du coup les observer avec ce regard féminin.
Et est-ce que dans chacune d'entre elles, il y a un peu de vous ou alors elles sont toutes nées de votre imagination ?
Alors, elles proviennent toutes de mon imagination. En aucun cas, déjà, ce ne sont des femmes que j'ai rencontrées. Elles n'existent pas dans la vraie vie, ou alors je ne les connais pas. De toute façon, dans tous les romans, on y met des petits bouts de soi, qui sont... alors, on les met consciemment ou pas. Mes amis très très proches, ou mon mari, savent pertinemment à quel moment c'est plus Agnès qui parle que Yael ou que Diane ou que Iris, mais ce sont vraiment des toutes petites choses. Mais aucune n'est moi, et je ne suis aucune d'elles. Après, quand j'écris, avec les trois, j'ai vécu un rapport quand même très fusionnel, et elles sont tout le temps là. Enfin, pendant l'année que je passe avec elles, je les traîne partout. Quand je vais chercher mes enfants à l'école, quand je vais faire les courses, quand je pars en vacances, quand je me couche le soir, quand je me réveille le matin, elles sont tout le temps là. Et forcément, à chaque fin de roman, après le point final, je fais le bilan et je sais que chacune m'ont laissé un petit morceau d'elle. C'est-à-dire que je ne suis pas ressortie strictement la même après l'écriture des gens heureux, ils y boivent du café pendant toute cette première partie de l'histoire de Diane. De la même façon, à la fin d'Entre mes mains, le bonheur se faufile avec Iris. Quand j'ai retrouvé Diane, 2 ans plus tard, pour La vie est facile, c'est pareil, elle avait mûri, moi aussi, et elle m'a à nouveau apporté quelque chose, et Yael m'a aussi énormément apporté.
Et d'ailleurs, c'est drôle, parce que Iris, on va la recroiser dans notre dernier ouvrage, et son mari, Gabriel, d'ailleurs.
Voilà, je me suis amusée à faire un petit clin d'œil à Iris pour plein de raisons. J'avais envie de donner de leurs nouvelles.
Et à vos lecteurs aussi.
Voilà. Et puis, ça a été un plaisir sans nom de les retrouver. Après, je l'ai fait parce que ça avait du sens dans l'histoire de Yael, parce que voilà, le domaine professionnel de Gabriel pouvait tout à fait rentrer en communication avec celui d'Yael. Donc, ça avait un vrai sens. Je ne les ai pas mis là par hasard non plus. Et moi, j'ai trouvé ça très drôle de les retrouver et en même temps de donner de leurs nouvelles. Et c'est quelque chose que je referais.
D'accord. Et alors, autre chose, on dit que vous êtes assez mélomane. Plusieurs chansons, et notamment de Gainsbourg, viennent tapisser le roman.
Oui.
Est-ce qu'il y a un rapport particulier, il y a un rapport particulier entre la musique et vous? Vous pourriez nous en dire plus?
Alors, je ne peux pas écrire sans musique. C'est-à-dire que toute la période où je construis le roman, je construis en même temps une bande originale. Voilà, je vais piocher à droite à gauche et puis certaines musiques viennent naturellement et vont coïncider à la scène à laquelle je suis en train de penser. Et si je n'ai pas la bonne musique pour une scène, l'écriture est catastrophique. Je peux bloquer des jours entiers en ayant la scène, mais je l'ai en tête, j'ai vraiment les mots au bout des doigts, mais ça ne sort pas. Et ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Et du coup, logiquement, quand j'écris, certaines musiques ressortent dans le texte parce qu'elles elles représentent vraiment un moment particulier ou que ça a plus de sens. Mais voilà, à la fin de Désolé, je suis attendue, je dois arriver à une liste de plus d'une centaine de morceaux de musique, puisque chaque scène a sa musique.
Et du coup, justement, vous avez des artistes comme ça, privilégiés. Là, on parle de Gainsbourg, mais il y en a peut-être d'autres qui vous ont marqué, vous
alors,
aussi.
Gainsbourg, parce que voilà, ça avait du sens par rapport à un personnage. C'était, voilà, c'est...
Et même à leur relation.
C'est-à-dire que quand je me suis demandé, tiens, celui-là, qu'est-ce qu'il écoute? J'ai pas cherché longtemps, c'était Gainsbourg logiquement, et puis après en écoutant certaines...
Bah, un brocanteur et écoute Gainsbourg,
voilà.
c'est bien connu.
C'est comme ça. alors après, Aaron est quand même très important depuis 2 romans, puisque le titre quand même de La vie est facile, ne t'inquiète pas, vient de leur chanson, que j'ai écouté en boucle pendant une scène de La vie est facile, ne t'inquiète pas. Après, voilà, j'ai beaucoup d'artistes anglais de rock ou d'alternatif. Hein, donc, c'est du Placebo, c'est du Florence and the Machine, c'est du Muse. Et en même temps, voilà, ça peut être des choses beaucoup plus délicates comme Agnès Obel. C'est assez varié quand même.
Et pour revenir un petit peu sur votre parcours, qui est quand même assez singulier, hein, puisqu'avant vous étiez psychologue clinicienne, et que vous vous êtes lancée dans l'auto-édition, ce qui vous a valu d'être opérée par les éditions Michel Lafon assez rapidement. Comment est-ce que vous vivez cette aventure avec eux depuis 3 ans ?
Merveilleusement bien. J'ai le bonheur et la chance d'avoir rencontré cette maison d'édition avec qui je m'entends très bien et même plus que bien. On travaille étroitement et ils respectent énormément mon travail d'auteur et on se dit les choses simplement et ils m'ont fait confiance. Ils ont tenté une aventure avec moi en 2013 en me proposant un contrat d'édition. Alors je venais de l'auto-édition numérique. Aucune maison d'édition en France n'avait donné sa chance à un auteur auto-édité issu du numérique. Eux, chez Michel Lafon, ils ont eu le cran de le faire. Et ils m'ont renouvelé leur confiance très rapidement. Et voilà, et là pour la 4e fois. Donc c'est plutôt une très très belle aventure que je vis à leur côté.
Et est-ce que justement c'est rassurant en tant qu'auteur d'être accompagné par un éditeur? Enfin, c'est quoi vraiment la différence quand on travaille chez soi et qu'on se lance dans l'auto-édition et avec un éditeur.
Bah déjà, on n'est plus tout seul. On n'est plus tout seul et en même temps, du coup, ce qui est quand même très agréable, c'est que je n'ai, entre guillemets, à m'occuper que de mon écriture. J'ai pas à m'occuper de ce qui se passe après pour le livre. Ils sont là, ils me soutiennent. Si j'ai besoin d'eux, si j'ai besoin de mon éditrice en cours d'écriture et je lui fais aide, ça va pas, je suis bloquée, etc. Elle est là, elle m'écoute, elle me soutient, elle a pas peur de me dire les choses et moi j'ai pas peur de lui les dire non plus. Donc et en même temps, ils respectent les moments de solitude qui me sont absolument nécessaires et vitaux pour écrire. Donc, c'est un travail d'équipe, du coup, où chacun a son rôle à tenir.
Et c'est oui, ça qui est une sacrée aventure humaine.
Et c'est ça qui est, ouais. Voilà, c'est ça qui est quand même assez extraordinaire.
Et est-ce que, comme Yael, vous avez un peu une journée type de travail? Vous vous imposez des horaires, des règles,
alors,
un emploi du temps
Presque. Ceci dit, elle m'a tapé sur le système et elle a eu des... Elle a déteint sur moi à certains moments pendant l'écriture. Mais mon mari a fini par me dire, après 3 semaines d'écriture, il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit « Yael, sors de ce corps ». Là, je me suis dit, bon, ça commence à poser problème. Ce livre commence à...
Ah, moi, je n'avais envie que de manger de la salade, hein, depuis hier.
Non, mais moi, je ne mange plus de sushi. Hein. Ça fait, donc, ça fera à peu près un an cet été que j'ai renoncé à tout plateau de sushi. C'est-à-dire que ça me dégoûte, puisque Yael ne mange que des sushis, puisque c'est pratique. C'est pratique, c'est rangé, ça ne prend pas de temps. Voilà. Mais je ne peux plus voir un sushi, c'est absolument impossible. Alors, mon rythme de travail, toute la période où je construis l'histoire et les personnages, je ne m'impose rien. Voilà, il faut que je me mette dans une prédisposition à penser, que je m'accorde du temps pour penser. Mais voilà, ça vient, je me pose certaines questions. Voilà, avec qui j'ai envie de passer une année, qu'est-ce que j'ai envie de leur faire vivre, pour qui, pourquoi, quelles questions je me pose en ce moment quand j'observe autour de moi. Donc voilà, toute cette partie de construction, j'ai pas de rituel ou de planning très précis. Une fois que je me sens vraiment à l'aise avec mon histoire et mes personnages et que je sens que voilà, la fusion avec le personnage principal est là, que j'ai bien retenu les chevaux pendant un certain nombre de semaines, où je laisse quelque part monter la frustration où j'ai envie d'écrire, mais je sais que je ne suis pas prête, donc j'essaye de me canaliser et de me dire « attends, parce que si tu commences, tu ne vas pas partir dans la bonne direction ». Une fois que tout ça est calé, je me lève très tôt, je commence à écrire vers 5h30. J'ai testé plusieurs moments de la journée. Et en fait, ce qui me convient le mieux, c'est de commencer très tôt le matin. Je me suis rendu compte que le moteur chauffait beaucoup plus vite chez moi au saut du lit.
Merci les enfants, d'ailleurs. Voilà. Je pense que ça nous conditionne un petit peu.
Mais en même temps, du coup, ce qui est très bien, c'est que comme je me lève avant eux, quand même, j'ai la possibilité de rentrer dans ma bulle. Voilà, je prends quand même mon petit déjeuner, je m'installe devant l'écran avec mon café, je mets la musique dans les oreilles et c'est parti. Et je suis dans une espèce de bulle, certainement encore un peu dans les brumes de la nuit, mais ça démarre très rapidement. Et là, du coup, j'arrive à me faire de grosses... c'est parti, quoi. Donc, je suis capable d'écrire de 5h30 à 16h, en faisant des pauses. Voilà, 7h30, j'arrête parce qu'il faut réveiller la petite famille, habiller, préparer, les emmener à l'école. Voilà, et puis après, j'arrête quand je vais les chercher à l'école. Mais voilà, je suis partie. Je suis rentrée dans l'histoire, je suis rentrée dans les scènes que je suis en train d'écrire. Et là, ça coule naturellement. Alors, je ne peux pas tenir le rythme forcément très longtemps. Régulièrement, il faut que je fasse des pauses parce qu'à se lever à 5h30, sans avoir idée de se coucher très tôt le soir, forcément, au bout d'un moment, ça fait comme Yael, hein, on tire trop sur la corde. Mais c'est vraiment... j'ai trouvé ce rythme-là et c'est celui qui me convient, en tout cas pour le moment.
Et comment l'idée d'écrire et l'envie d'écrire a germé en fait dans votre esprit ? Quand est-ce que ça s'est fait?
Alors, j'ai pris goût à l'écriture pendant mes 2 dernières années d'études, en maîtrise et en DVSS de psycho, quand il a fallu écrire les mémoires de fin d'études. Et là, j'ai aimé écrire, véritablement. Après, j'ai tout de suite compris que je n'aurais pas envie d'écrire psy. Mmh. Et de me lancer dans un DEA, de la recherche, une thèse, etc. Non, j'avais pas envie d'écrire psy. En fait, je me suis très vite rendu compte que si un jour j'écrivais, ça serait pour écrire des histoires, raconter des histoires. Donc c'était un joli rêve. Enfin, c'est bien un rêve, c'est confortable. Donc on le garde. Enfin, je l'ai gardé tant que j'ai pu, en me disant voilà, je risque pas grand chose tant que je m'y confronte pas. Et puis je suis devenue maman. Quelques années plus tard, après avoir travaillé en tant que psychologue. Et là, je pense que la maternité m'a donné les ailes, un côté tête brûlée. Je ne sais pas si je me suis sentie Wonder Woman, tu vas être capable de tout faire, de tout essayer. Mais en tout cas, l'arrivée de mon fils aîné dans ma vie a généré ça, en me disant, bah, ouais, si un jour tu as l'histoire qui te plaît, et bah, là, tu essaieras d'écrire. Juste, c'était vraiment essayer d'écrire, voir si... je peux écrire une histoire. Et l'histoire des gens heureux, lisent et boivent du café, a fini par mûrir dans ma tête. Et je me suis dit, bah, si tu n'essayes pas avec celle-là, tu n'essaieras jamais. Et c'est parti comme ça.
Et donc, vous aviez déjà envoyé quelques manuscrits donc à des éditeurs?
Ah non. C'est le tout premier roman que j'ai écrit.
Que de chemin parcouru, oui. Hein, quand même.
Parce effectivement. Que... Et c'est vrai que tout va très vite. Hein, Ça fera 3 ans, dans 3 jours, que Les gens heureux, lisent et boivent du café sont sortis en librairie chez Michel Lafon. Donc voilà, ça c'est. J'ai pas besoin de beaucoup me retourner. Ça, c'est... En 3 ans, je suis en train de vous parler de mon 4e roman. C'est un vertige et un bonheur sans nom.
Sachant quand même, 3 ans d'écriture, mais vous avez quand même la. La Westin Company, qui s'est intéressée fortement à votre premier roman, qui a acheté les droits. Alors, la Westin Company, c'est entre autres les producteurs de Kill Bill, Le Seigneur des Anneaux, The Artist. Bon, donc j'imagine que quand Hollywood vient comme ça toquer à votre porte, c'est un peu la consécration, non?
C'est un sentiment assez particulier. Ce qu'il faut savoir à la base, c'est que ce sont des producteurs français qui sont à l'origine de ce projet, qui ont travaillé la coproduction donc avec la Weinstein Company. C'est au-delà du rêve, c'est au-delà de quelque chose de réalisable, finalement. Quand il y a eu l'annonce officielle l'année dernière, voilà, nous on savait que les contrats étaient signés depuis quelques semaines, mais en fait ça semble complètement abstrait. Enfin, on a beau avoir vu un truc griffonné sur des papiers écrits en anglais, ça a pas tellement de sens. Et puis on a su avec les éditions Michel Lafon qu'il y aurait le premier communiqué de presse officiel de la part de la maison de production américaine et qui allait sortir. Et donc on savait que ça allait sortir pour nous une nuit avec le décalage horaire, et le lendemain matin je me dis tiens, c'était la nuit dernière, et je tape le nom du livre en anglais sur Google et je mets actualité, on va bien voir ce qui se passe. Et là je vois le rideau d'articles de sites d'information américains sur le cinéma type le Hollywood Reporter, et j'ai passé, pour être honnête avec vous, j'ai passé la journée entre rire et larmes. C'est-à-dire qu'à un coup je pleurais en me disant c'est pas possible, c'est pas à moi que ça arrive, et un autre c'était la minute d'après, c'était les nerfs qui prenaient le dessus, et je riais en me disant mais tu te rends compte, tu viens de nulle part. Je viens de l'auto-édition, je me suis battue toute seule pour que le roman existe, et là tu te retrouves là. Enfin, c'est quelque chose qui donne le vertige, qui me le donne quand j'y pense. C'est pour ça que j'y pense pas trop, en fait. Je savoure, quand il y a des nouvelles ou des choses, des annonces officielles comme il y a eu l'année dernière, j'en ai profité, j'ai fêté la nouvelle avec ma famille, avec mes amis, avec la maison d'édition, et puis après je range ça dans un coin de ma tête et je veux pas y penser parce que c'est énorme, c'est trop énorme, et en même temps c'est pas C'est pas mon essentiel. Mon essentiel, c'est d'écrire des histoires et d'essayer, justement, en écrivant ces histoires, de susciter des émotions auprès de mes lectrices et de mes lecteurs. Et mon vrai plaisir, il se situe là. Après, c'est la méga cerise sur le gâteau dont je n'aurais jamais osé rêver. Mais c'est pas mon obsession.
Donc pas du tout de date de sortie encore annoncée.
C'est un projet qui est excessivement long.
Ouais, bien sûr.
Donc non, il n'y a pas plus d'informations que celle-ci. En fait.
Et on vous demande un peu votre avis, je sais pas, moi, quant au casting peut-être, futur.
Moi j'ai beaucoup discuté surtout avec les producteurs français, hein, qui sont mes principaux interlocuteurs, évidemment. Voilà, où on a parlé du roman, où eux ils ont porté le roman auprès des producteurs américains et ils l'ont défendu et ils y croient et ils l'aiment profondément. Donc après, voilà, eux, ils sont là pour... c'est, le cinéma, c'est leur travail, c'est pas le mien.
Bien sûr. Et toute autre question, est-ce que... Bon, chaque écrivain, un petit peu, ses genres, ses thèmes de prédilection. Est-ce que vous, il y a des choses vers lesquelles vous ne voulez pas aller en tant qu'auteur? Est-ce que vous êtes déjà, alors pas interdit quelque chose, mais en tout cas, vous êtes dit, non, ça j'irai pas Alors, ça m'intéresse pas. Ou...
Je n'imagine pas qu'un jour j'écrirai un thriller ou un polar pur. Ça, c'est quelque chose que je n'imagine pas. Après, peut-être que je le ferai. Je ne m'interdis rien. Peut-être qu'un jour, voilà, j'aurai une lumière, une envie subite d'écrire dans ce genre-là. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est qu'à chaque fois. Ça soit une histoire. C'est de raconter quelque chose. C'est de raconter quelque chose, de mettre des personnages fictifs au cœur du roman et d'essayer d'embarquer, finalement, quelle que soit la thématique. Donc, à partir de ce contrat que j'ai signé avec moi-même, je ne m'interdis rien pour le moment, en tout cas.
D'accord. Et alors, c'est assez, assez drôle parce que j'avais fait mon mémoire de fin d'études en fait, sur le coaching littéraire. Ouais. Et j'ai eu la joie d'interviewer Laurent Bettoni, qui était votre coach, en fait. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'avais retrouvé une petite vidéo de vous. Donc, vous faites partie de ces gens qui pensent que écrire, ça prend aussi.
Oui.
Et c'est pas juste un don du ciel.
Ça tombe pas du ciel. Enfin, j'ai essayé d'attendre que ça vienne, mais ça vient pas. Après, c'est du travail, c'est de l'apprentissage, c'est essayer des choses. Moi, le coaching littéraire que j'ai fait, c'était véritablement dans l'idée d'avoir un regard extérieur. Comme j'aurais pu avoir si j'avais une maison d'édition avec un éditeur. Mmh. Et finalement, moi, le coaching littéraire que j'ai fait, c'est un travail éditorial d'un auteur accompagné par son éditeur. Et parce que au-delà de l'apprentissage de certaines choses, il faut à un moment qu'il y ait quelqu'un qui fasse tiers entre l'auteur et son roman. On n'a plus de recul. Au bout d'un moment, on leur travaille, on leur lit, on n'arrête pas. Et je pense que de temps en temps, c'est bien qu'il y ait quelqu'un qui dise stop là. Stop, je suis là pour ça, je suis là aussi pour te dire ce qui va pas. Et aussi à un moment dire, on arrête. Mm-hmm. Parce que si tu continues, après c'est un travail. On pourrait ne jamais s'arrêter, mais du coup, il n'y aurait jamais de point final. Et on ferait certainement des bêtises, je pense, à force de continuer à travailler. Mais après, je pense que chaque auteur peut trouver son apprentissage différent de l'écriture aussi. Parce que je vois dans les rencontres que je fais maintenant avec des auteurs, on a tous des façons différentes de travailler. Il y en a qui n'ont pas besoin d'avoir un scénario total avant de démarrer et qui vont être capables, voilà, finalement, d'aller où ils doivent aller. Moi, j'ai besoin d'avoir une base. Et encore maintenant, je m'autorise à opérer des modifications en cours d'écriture, mm-hmm. ce que je ne faisais pas au tout début.
Et est-ce que vous pourriez justement expliquer un petit peu à l'auditoire, en fait, en quoi un coaching littéraire est différent d'un atelier d'écriture? Est-ce que c'est le fait d'être encadré aussi personnellement
Alors après, moi, j'ai jamais fait d'atelier d'écriture. Dans le coaching littéraire, moi, que j'ai pu faire, il n'y avait absolument pas d'aspect ludique. C'était du travail.
D'accord.
Donc après, à moi de le faire à mon rythme. Mais moi, je l'ai vraiment vécu et j'ai souhaité le faire dans une idée de travail et de progression. Comme je n'avais jamais écrit avant. Donc, c'était pas des petits exercices. Non, c'était un travail sur mon texte existant, sur l'histoire qui était là. C'était comment je pouvais travailler mon histoire et mon texte pour au mieux servir mes personnages. C'était vraiment ça. Donc, il n'était pas question que je m'amuse. Mais moi, je ne l'ai pas pris pour m'amuser. Hein. J'ai pas fait ce coaching littéraire pour m'amuser.
Oui, bien sûr. Après, j'aurais voulu revenir sur cet ouvrage. Alors, c'est vrai que je ne veux pas trop en dévoiler sur l'histoire, parce que voilà, c'est ce qui fait toute sa subtilité et tout son charme. Mais moi, j'avais plutôt le sentiment de terminer ce roman avec une Yael sereine, confiante, enfin voilà, qui a retrouvé un certain équilibre. Donc, je me suis dit qu'il n'y aurait pas forcément de suite. Mais après, j'ai eu vent quand même de certains lecteurs qui attendent désespérément une suite déjà, disant que vous ne pouvez pas les laisser comme ça.
Oui.
Est-ce que c'est prévu?
Non. Je ne m'étais jamais posé la question. En dehors d'un plaisir totalement égoïste, quand j'arrivais pas à me dire justement qu'il fallait que je mette le point final et que c'était terminé avec Yael. Mais à la base, je ne m'étais jamais dit qu'il y aurait une suite. Donc je suis complètement désarçonnée par cette demande de suite qui a dû quasiment arriver dès le lendemain de la sortie sur ma page Facebook, où on m'écrit « Agnès, vous ne pouvez pas nous laisser comme ça ». Pourtant, c'est bien ce qui était prévu. Donc... aucune décision n'est prise. Enfin, voilà, j'ai pas changé d'idée pour le moment. La seule chose que je peux dire, c'est que au moins un jour, Yael reviendra sous la forme d'un clin d'œil, comme j'ai fait le clin d'œil avec Iris.
Voilà,
elle donnera de ses nouvelles. Donc, après, à savoir si ça sera un roman qui lui sera entièrement consacré, je n'en sais rien. Peut-être que dans quelques années, j'aurai envie de la retrouver et d'aller plus loin dans sa vie. Mais au moins, un jour, elle donnera de ses nouvelles.
D'accord. Et du coup, vous êtes déjà en train d'écrire le prochain là? Comment ça se passe?
Il est là. Il est là.
Pour l'instant, il n'est pas couché sur papier.
Non. Je commence à coucher, mon scénario, mais j'ai pas encore commencé à écrire.
D'accord, donc pas d'infos exclusives
non.
Pour l'instant.
Non.
On attend encore un peu. Très bien. Eh bien, merci beaucoup en
tout cas. C'est moi qui vous remercie.
Merci.